prothèses sont déjà là avant même qu'on les ait faites. Donc, en tout cas, une articulation plus fondamentale entre la démarche de la psychanalyse et la démarche de la biologie. Je suis prêt aujourd'hui à envisager ce débat avec la Borie, entre autres, parce que les données qui ont évolué depuis 10 ans dans le domaine de la mémoire nous permettent de voir comment une singularité individuelle peut s'inscrire dans une histoire et comment cette singularité, donc qui serait constitutive de l'inconscient individuel, ne peut pas échapper aux mécanismes de régulation biologique.
Vous voyez, il parle très lentement, parce que chaque mot qu'il prononce, il faut qu'il ait avant prévu ce que ça va déterminer dans le crâne de l'autre qu'il écoute, alors que moi je parle plutôt vite et que les idées se bousculent au portillon et que ce que l'autre peut en penser, c'est pas mon but principal. Enfin, alors que lui est sans arrêt en feedback.
Je vois pas pourquoi les lois de l'inconscient, donc les lois psychologiques, ne relèveraient pas de la même démarche, même si le champ d'application est différent.
Peut-être ce qui, je ne dirais pas sépare, la preuve c'est qu'il travaille avec nous depuis 20 ans, un psychanalyste d'un biologiste. Est-ce une question de mots? Un biologiste ne peut pas se contenter des mots. Or, beaucoup de psychanalystes, je ne dis pas tous, beaucoup de psychanalystes sont enfermés dans un langage et on met ce qu'on veut dans un mot. Mais beaucoup de processus, de phénomènes observés par Freud peuvent s'expliquer actuellement par des mécanismes qui sont toujours globaux. Ça n'est pas un cas spécifique de rapport à la mère ou rapport à n'importe qui dans la petite enfance ou dans la moyenne enfance. Ce sont des règles générales. J'ai souvent écrit d'ailleurs que ce que le ça pulsionnel, nous, il n'y a pas de pulsion sans hypothalamus, sans tronc cérébral. Il n'y a pas de mémoire sans hippocampe. Et tous ces mécanismes-là, on est en train d'en montrer toute la complexité.
Il me semble que la psychanalyse a évolué d'une manière, enfin, dans un territoire, dans une extraterritorialité par rapport à l'évolution des sciences, qui fait qu'aujourd'hui, on trouve peut-être beaucoup plus d'ouverture d'esprit chez les physiciens, chez les mathématiciens, chez les biologistes, vis-à-vis d'un concept de l'inconscient, qu'on ne trouve chez les psychanalystes une capacité d'intégrer le travail considérable que la science a fait en 20 ans. Et ils sont décalés, déphasés.
On peut étudier donc scientifiquement, physiologiquement, chimiquement certaines émotions, certains comportements, comme vous l'avez fait. Bon, je pense par exemple à la peur, au rire, à l'agressivité, à la pulsion de survie, à la fuite, à l'imaginaire, à l'inhibition, à l'angoisse ou à la mémoire, qui sont dans le fond des comportements assez simples. On pourrait dire que ce sont des processus. Mais alors, comment définir des notions qui sont beaucoup plus subtiles, comme par exemple l'intelligence ou la pensée, ou la conscience même?
Comme vous le dites, c'est tellement subtil que pour moi, ça n'existe pas, l'intelligence. Ça sert simplement à permettre dans une société donnée de s'élever dans une hiérarchie et d'atteindre la dominance. C'est réglé par des QI, mais je ne sais pas, par exemple, Einstein a-t-il refusé comme mauvais mathématicien au Polytechnicum de Zurich? Bon, ça montre qu'il n'avait peut-être pas un QI étonnant, Einstein. Et ce que je pense, c'est que je n'ai pas de région cérébrale ou que si je la chatouille, je me rendrai intelligent. C'est un concept absolument gratuit qui est utilisé par des groupes sociaux pour favoriser ce qui est utile à cet ensemble social. Mais ça n'existe pas, l'intelligence.
Pourtant, on a l'impression dans la vie quotidienne de rencontrer des gens plus ou moins intelligents.
Peut-être des gens qui associent mieux. Souvent, on confond l'intelligence et la mémoire. Je suis presque certain que ce terme d'intelligence ne définit rien.
Et la pensée et la conscience?
La conscience, alors là, j'ai écrit des tas de choses là-dessus. Mais je vais me faire comprendre très rapidement, très simplement. Quand un pianiste de concert a interprété une œuvre musicale et qu'il a, un trait qui est très difficile, alors il va passer 3 semaines, 1 mois, 6 mois à répéter ce trait. Il est parfaitement conscient de la difficulté, et qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr qu'il n'est pas conscient des neurones corticaux qui vont, pyramidaux, qui vont commander et quels sont les muscles de ses doigts, mais enfin, il va rendre son trait, son jeu de doigts, strictement inconscient, de façon à ne plus avoir à y penser. C'est devenu automatique, et tout automatisme devient inconscient, et toutes nos pensées, tous nos jugements de valeur sont des automatismes, et ils sont inconscients. Alors vous voyez ce que ça donne, quand vous me parlez de la liberté, vous voyez où ça va. Bien. Il est pourtant aussi conscient. Mais il a un champ de son action qui est devenu inconscient, qui lui permet à ce moment-là d'avoir un autre niveau de conscience auquel il va s'intéresser, par exemple, à une sonorité pour faire passer à travers son émotion personnelle celle de l'artiste, du compositeur qui l'interprète. Et il est toujours aussi conscient. Donc il y a des niveaux de conscience qui sont bâtis sur l'inconscient.
France Culture, Le Bon Plaisir de Henri Laborie.
Gaspé, 28 décembre 1988. Lettre adressée à Monsieur Henri Laborie. Monsieur, permettez-moi de venir vous remercier bien simplement pour les livres que vous avez écrits, tels L'éloge de la fuite, La nouvelle grille, La colombe assassinée et Dieu ne joue pas au dé. Je dois vous dire qu'ils m'ont redonné le goût de vivre, m'aidant à mieux comprendre les mécanismes biologiques qui nous gouvernent tous, m'apportant une vision plus vaste et détachée sur le monde, et aussi sur mes problèmes personnels que je pensais désespérés. N'étant pas une scientifique mais une artiste peintre, j'y ai trouvé un réconfort solide dont je veux vous remercier. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, songeant à bien des personnes anonymes auxquelles vous avez rendu service par vos écrits ou vos recherches. Puisse ma petite lettre vous encourager à poursuivre toute la démarche entreprise depuis tant d'années, une lectrice qui apprécie beaucoup vos écrits, Maya.
Guy Bedos.
On peut rire et faire rire le soir de choses qui nous ont fait pleurer dans la journée, et ceci par une sorte d'instinct de survie, enfin en somme, à la fois pour soi et pour les autres. Je veux dire que, bon, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai des amis qui sont atteints de maladies déplaisantes, c'est moins qu'on puisse dire. Je ne suis pas un hôpital, j'ai moi, mais enfin bon, je suis comme tout le monde, j'ai des amis, le sida, etc., n'a pas épargné certains de... Bon, ben, sur scène, je fais des blagues sur le sida, oui. Alors que dans la journée, bref, oui, c'est un jeu. Oui. Mais c'est justement...
Oui, mais c'est un jeu.
Est-ce que dans la salle, tout le monde connaît l'alphabet, si je puis dire, de cette langue-là? Car ça devient, pour certains, évidemment, une langue étrangère. Genre, comment peut-on rire? Mon Dieu, qu'il est cruel, mais alors il n'a donc pas de cœur,
oui,
etc.
Oui,
c'est rare, hein, ça. C'est rare, hein.
Mais ça, je comprends très bien qu'on puisse le dire, qu'il y a des gens qui n'est pas compris.
Oui, mais moi je les comprends aussi. Je les comprends aussi.
Mm. On vous l'a dit à vous aussi que vous n'avez pas de cœur, sans doute.
Oui,
parce qu'à force de décortiquer tous les comportements, finalement.
Pour qu'on vous considère comme sans cœur, comme insensible, comme. Il faut justement avoir dépassé la sensibilité. Larmoyante et...
On l'appelle sensiblerie, en somme.
La sensiblerie, oui, c'est ça. Et que quand on a vraiment atteint... Je ne dirais pas sur le fond du malheur. Enfin, à ce moment-là, on peut devenir... avoir l'air insensible, c'est la seule façon de survivre, en plus. C'est pouvoir, relativiser...
Non, mais il est commode ce mot-là, mais c'est vrai que j'y ai souvent pensé à propos de, justement, de vous, des médecins en général, des gens qui sont en contact avec la maladie et la mort quotidiennement. Nous, les usagers, on est quelquefois un peu surpris par la dureté apparente, en tout cas de certaines personnes qui nous soignent, en somme, ou qui sont censés nous soigner. Mais en même temps, on ne peut pas demander à tous ces gens d'éclater en sanglots chaque fois qu'ils voient une plaie ou une radiographie un peu déplaisante.
Monsieur Guy. Il faut être encore plus lucide que ça, parce que j'étais chirurgien et j'ai sûrement participé à la mort d'un certain nombre de gens, ayant fait tout ce qu'il fallait pour ce qui était orthodoxe de faire. Alors, j'aime pas la mort, j'ai jamais aimé la mort, j'ai été très confronté à elle pratiquement toute ma vie et dès le plus jeune âge. Elle m'a fait peur très tôt, et quand je voyais des gens mourir, j'essayais de me mettre dans leur peau d'ailleurs, quand il y a quelqu'un en train de mourir, j'essayais de me mettre dans sa peau, savoir ce qu'il sentait, savoir pourquoi il mourait. Alors, effectivement, ça vous amène à chercher autre chose qui n'est pas orthodoxe, hein, qui n'est pas coutumier. Et peut-être
vous voulez dire que le médecin l'a fait des heures supplémentaires, en somme.
C'est vrai, non. Mais vous savez,
son rôle,
Le Riche a été le plus grand chirurgien français de ce siècle, a écrit « Tout chirurgien a dans son cœur un cimetière que le soir il va visiter en s'endormant ». Et je trouve que c'est vrai, ça. Mais une deuxième chose, si on est lucide, c'est que finalement... Le chirurgien, vous savez, c'est normal d'ailleurs, il est mégalomane. Il est l'intermédiaire entre la divinité et la chair souffrante. Et la famille lui baise les mains, vous êtes notre sauveur, etc. Enfin, c'est vraiment, une affectivité autour de ça. Et il se fait une image de lui-même, qui essaie de projeter sur le public, mais que lui-même regarde avec plaisir quand il sera ce matin devant la glace. Hein.
Parce qu'il est le grand sorcier de cette société occidentale.
Et alors, un échec opératoire porte atteinte à cette image qui se fait de lui-même. Et ça, c'est une atteinte au quoi ? À son narcissisme. Nous avons tous notre image idéale. Bon, et cette image idéale, quand nous essayons de la projeter sur un public, sur les autres, elle vous est renvoyée favorablement. On vous dit, vous êtes un type remarquable, c'est bien, vous aurez de l'avancement d'ailleurs, si vous êtes bien. Bon. À ce moment-là, on est forcément conservateur, qu'est-ce qu'on ne va pas changer les rapports sociaux qui, bon. Par contre, vous êtes l'intellectuel de gauche, comme on dit, qui considère qu'on n'a pas suffisamment apprécié ses qualités créatrices, et son originalité, etc., et qui en accuse effectivement, puisque c'est les autres qui n'ont pas apprécié ces valeurs. Et il veut changer l'environnement social, alors il votera à gauche. Donc on est 50-50, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même contents de leur sort et de l'image idéale qui leur est renvoyée. Bon. C'est ça la démocratie.
Vous récusez violemment toutes les valeurs humanistes, et en même temps, vous êtes perçu comme un humaniste et un peu comme une autorité morale, alors que vous dites volontiers amoral,
à privatif, oui, c'est vrai. Et parce que j'essaie de construire une morale qui n'est pas la morale. J'essaie de vivre en me débarrassant dans ma vie quotidienne même, en me débarrassant, et c'est pas commode, parce que les autres ne sachant pas, le rapport à l'autre n'est pas simple, parce que il faudrait que tout le monde sache un minimum pour pouvoir vivre en collaboration, en convivialité, puisque c'est le terme à la mode maintenant. Or, les autres ne savent pas. Alors, la morale, ça permet d'agir quand on est en inhibition de l'action, parce qu'on fera la chose qui est morale. Or, je pense qu'on vit dans une bouillie de jugement de valeur qui est peut-être indispensable, d'ailleurs, momentanément, et qui se transforme lentement, à mesure que justement tous les préjugés tombent les uns après les autres. Il faut tout foutre par terre pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus humain. On a un cerveau orbitofrontal, figurez-vous, je vous le disais tout à l'heure. Il est pour imaginer d'autres rapports sociaux que ceux qui sont toujours de recherche de dominance, etc., en considérant que c'est très bien. Hein, qu'à partir du moment où vous êtes le leader, le battant, le tapis du coin, etc., vous êtes le gars sérieux à qui il faut faire confiance. C'est ça qui est révoltant. Et alors, il faut tout casser pour dire non, c'est pas possible.
Deux complices sur un banc public, Michel Ragon, écrivain, et Henri Laboré.
Quand on dit qu'on est vendéen, on pense qu'on est des gens de super droite, qu'on est des affreux jojos qui... Alors qu'on est exactement le contraire.
Oui, absolument, mais parce qu'on est des rebelles, toujours. Voilà.
Mais vous avez donc en commun, quand même, cet esprit libertaire, je ne sais pas s'il faut mettre des guillemets ou pas, d'ailleurs.
Non, pas de guillemets, non, pas de guillemets. Non, oui, on a en commun ces trucs. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est chez Henri Laborie. Je sais qu'il a participé, comme moi d'ailleurs, à cette radio qui s'appelle Radio Libertaire, qu'il est bien aimé dans le milieu libertaire. Non, l'esprit libertaire, qu'est-ce que c'est tolérance. L'esprit libertaire, c'est pas être membre d'un parti. Il n'y a pas de parti anarchiste, ça n'existe pas. C'est un état d'esprit qui est rebelle aux notions de pouvoir, qui est rebelle aux notions de prédominance de l'argent, qui est rebelle.
Moi, je mettrais ça d'abord.
Au monde carcéral dans lequel on tente de nous faire vivre, de toute façon, et qui est résolument contre tous les partis constitués, aussi bien de droite que de gauche. Ce ne sont pas les libertaires, ne sont pas des gens de gauche, contrairement à ce ne sont pas des gens de droite non plus, évidemment, mais ce sont des gens qui sont ailleurs.
Et finalement, qui sont essentiellement tolérants.
Qui sont ailleurs, mais je dois dire que il y a toujours cette expression « Ah, c'est un vieil anard », ou etc. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de jeunes anards, c'est toujours des vieux anards. J'ai toujours été un vieil anard, moi, il y a 40 ans que je suis un vieil anard.
Maintenant, je suis devenu.
Et maintenant, évidemment, ça finit par être vrai. Mais je veux dire que ça dépasse beaucoup ça dépasse beaucoup l'objet de la plaisanterie. Dans la mesure où justement c'est pas un parti, il y a une répercussion dans la société contemporaine de l'esprit libertaire immense. Je veux dire que presque tout ce qu'on a appelé toutes les notions de nouvelle gauche sont nées de l'esprit libertaire. Toute la pensée philosophique et politique qui n'est pas liée à des partis constitués est d'essence libertaire. Et on le trouve aussi bien chez des gens comme Foucault, comme Michel Foucault, comme Glucksmann, etc. Ce sont des gens qui sont pétris d'esprit libertaire, sans parler évidemment de von Bédit, évidemment, et de 68, qui était tout d'un coup une irruption de l'esprit libertaire, de la pensée libertaire dans le monde contemporain, stupéfiant, ce qui a stupéfié tout le monde, qui a pris tous les partis à dépourvu parce que justement c'était absolument pas prévu. Bon, bien sûr, ça c'est ensuite l'utopie. L'esprit libertaire, c'est l'utopie.
Oui, mais l'utopie, on peut dans l'utopie tout de même essayer de voir ce qu'on peut faire.
Bien sûr.
Alors qu'ils n'ont rien apporté, finalement. Ils ont apporté, si, à mon avis, très important. Enfin, ils n'ont pas transformé le monde.
Non,
alors qu'ils espéraient le faire.
Oui, absolument.
Il y a un type que tu as oublié de citer, qui était un libertaire, c'est Jean Rostand.
Ah oui, mais là, je ne l'ai pas connu, moi.
J'ai un peu connu, Ville-d'Avray, j'aimais bien, puis il m'aimait bien, d'ailleurs, aussi. Et c'est vraiment un esprit libertaire, Jean Rostand. Que tout être vivant a droit à la santé, sans que avoir quelque chose à donner à l'existence d'abord, a droit au minimum, je dirais, de bonheur, c'est un mot qui veut rien dire, mais au minimum d'équilibre biologique, de plaisir. Il a droit à un minimum de, je ne dirais pas de travail, il n'y a pas de droit au travail. On vous a appris depuis des millénaires que l'homme doit travailler la sueur de son front. Alors les gens aiment bien faire transpirer leur front. Moi, je trouve que c'est assez curieux. Un homme, si quelqu'un ne veut pas travailler, ça l'ennuie. Bah, pourquoi pas? Il n'a pas le droit de mourir pour ça, il n'a rien à échanger. C'est pas une société d'échange, la société. La société doit être une société fraternelle. Hein? Si votre... Regardez, Van Gogh. Je dis fraternel, ça me fait toujours... Si elle frère, Théo, Van Gogh, il gagnait pas de fric, on pouvait pas vendre ses tableaux, etc. Il a été créateur. Il a été entretenu par son frère fraternellement.
Alors vous croyez tout de même à la fraternité, à l'amitié...
À ce type-là, ce type de fraternité, oui. Mais qui n'est pas basé sur des valeurs. Le seul fait d'être un homme doit vous être... L'homme, quel qu'il soit, doit vous être fraternel. C'est votre frère, il a de la même espèce. Alors... Bien sûr que c'est d'utopie, mais tant qu'on n'atteindra pas ce type d'utopie, on fera des guerres, des génocides, des tortures, des... Il y a un truc utile, et dont je fais partie d'ailleurs, c'est l'Amnesty International. C'est une grande chose.
Vous êtes préoccupé de religion?
Oui. Vous savez pas ce qu'on appelle la religion, hein. Je ne suis pas religieux. Bon, j'ai été élevé dans la religion catholique, tout Vendéen qui se respecte a été élevé dans cette religion. J'aime pas le terme de religion parce que c'est une adaptation par des sociétés humaines et par des groupes humains. Et l'exploitation par ces groupes humains d'une certaine angoisse de l'homme, le fait qu'il ne comprend pas ce qu'il est venu faire sur cette planète. Et ça, je suis religieux de ce point de vue-là, parce que je me suis demandé moi aussi ce que je suis venu foutre ici et ce que les autres ils sont venus faire. Hein. Et comme en plus les mystiques, paraît-il, arrivent à rejoindre l'absolu. Moi, je n'ai jamais pu, mais ça ne veut pas dire que je n'y parvienne pas, ça me dépasse, c'est tout. Donc je ne les nierai pas, parce que je ne suis pas scientifique de nier quoi que ce soit. Quand mon dernier bouquin, Dieu ne joue pas au dé, j'ai hésité à mettre Dieu, parce que c'est entaché actuellement de religiosité. Mais Einstein, qui n'était pas un religieux, mais qui n'était pas athée non plus, parce que qu'est-ce que c'est que Dieu ? Dieu, il n'est pas au ciel, il est partout. Si Dieu, c'est le mouvement de Baum, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra sans doute jamais, parce qu'on ne peut pas être dans un référentiel et en sortir pour regarder ce qui se passe au-dessous. Mais je ne peux pas le nier non plus, et effectivement, si vous voulez, dans ce sens-là, je suis religieux. Et puis aussi, je peux dire que... Je ne sais pas si j'ai un anarchisme comme Ragon, je suis anarchiste, mais... Il y a un anarchiste qui m'a plu beaucoup, et je ne discuterai pas s'il est Dieu ou homme, c'est le Christ. Et ça, les évangiles, je trouve que c'est vraiment étonnant. Parce que il y a une intuition d'un homme, et c'est voulu tel, qui a été rapportée d'ailleurs par des gens qui n'y ont rien compris, et qui a tout de suite, avec saint Paul, immédiatement transformé ce message étonnant. Et je veux dire que j'ai une amitié pour le Christ qui est très grande, parce que tout ce que je retrouve actuellement dans les comportements humains, ça a été dit d'une autre façon, beaucoup plus simple, pour des gens simples, mais ça a été dit par lui de façon très cohérente. Le but, c'est la façon de passer sa vie sans s'ennuyer, vous savez, c'est la première chose. Et c'est triste justement que les sociétés contemporaines aient éloigné, pour la production de marchandises, aient éloigné de l'homme de ce problème. Alors, la motivation, c'est l'angoisse. Et l'angoisse existentielle dont parlait ce brave Einstein. Et il disait, il n'y a pas de grande découverte sans angoisse existentielle. Je crois que c'est pas un but, mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Un homme est là, je ne pense pas qu'il puisse faire autre chose que d'essayer de comprendre, donc de connaître. J'ai même écrit un truc qui m'a été souvent, non pas reproché, au contraire, qu'au lieu de mettre liberté, égalité, fraternité, qui sont des absurdités, on pourrait mettre connaissance, conscience, imagination.
Qu'est-ce que ça vous fait tout de même d'être perçu comme un humaniste ?
Je dirais que ça ne me déplaît pas en ce sens que je suis un homme. Le terme d'humaniste, ça veut dire que je suis un homme. Je ne suis pas un pré-hominien, si vous voulez. Je pense que la seule attitude humaine, avec un grand H, et pas de l'humanisme de grand-papa, c'est de travailler pour l'espèce, d'agir pour l'espèce, et que la seule façon de ne pas se tromper, c'est d'être toujours pour ce qu'on appelle la veuve et l'opprimé, c'est-à-dire pour le faible, pour le plus faible. Mais il faut se méfier, parce que quand les plus faibles arrivent à prendre la place des dominants, à ce moment-là, c'est eux qui vont institutionnaliser la dominance. Alors à ce moment-là, il faut changer de dominant et prendre un autre faible, parce que comme il y a toujours dominant et dominé, il vaut mieux toujours être du côté du dominé. Ce que je veux dire, c'est que le darwinisme, qui est le discours logique que la société, qui a toujours existé comme ça, et sans besoin de Darwin, c'est le plus fort qui gagne, c'est celui qui va se reproduire, c'est celui qui a raison, puisqu'il est mieux adapté, il se rend compte que c'est que l'adaptation. Mais enfin, cette notion-là amène à cette foire d'empoigne qu'on voit, hein, à la compétition, à la hargne, à la violence, au meurtre, au génocide, à tout ce que vous voudrez.
Ça rejoint un peu le... Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Chris Marker qui s'appelait « Le fond de l'air est rouge » et qui, au fond, arrivait à nous dire, non pas à démontrer, mais à nous dire que toutes les révolutions, quasiment, avaient malheureusement fini par la prise de pouvoir au nom de la lutte pour les opprimés.
Voilà.
Je pense pas à Castro,
Mao
Tse-tung, etc. Oui. Deviennent des oppresseurs à partir du moment où ils sont au pouvoir.
Mais je crois qu'on
c'est
peut
comme
sortir
une
de cette...
une fatalité. On pourrait penser que c'est une fatalité.
C'est pas une fatalité. La dominance, c'est pas quelque chose que le gosse acquiert en naissant. C'est un apprentissage.
Un apprentissage et une reproduction de schéma, comme on dit, qu'il fait. Mmh. Mais on a pu le remarquer, ça, ce paradoxe, même pour la parole, puisque là, nous sommes devant des micros, etc., pour arriver à en placer une dans ces assemblées-là, c'est extraordinaire. Et
c'est souvent
les grandes gueules qui gagnent, même pour dire des conneries, hein,
oui.
De toute façon,
oui.
Mais ils les disent avec une conviction telle que les autres se taisent.
Oui. Oui, je sais bien.
C'est à vous dégoûter de faire la révolution. J'ai arrêté, moi, d'ailleurs.
Oui. Culturellement, on voit qu'il est possible de changer les choses, puisque, regardez, les mouvements féministes, elles ont quand même fait
tout
du bruit, elles ont imposé une vision de la femme qu'on n'avait pas au siècle dernier.
Oui, oui.
Hein? Donc, l'homme est quand même transformable.
Le bon plaisir de Henri Laborie, proposé par Marion Thibat.
Il faudrait une sacrée lucidité pour savoir ce qu'on est, vous savez. J'aime bien les gens qui peuvent vous dire « je suis ça, je suis ça, je suis ça ». Moi, je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais pas. Et je m'intéresse d'ailleurs... Je suis de ces si je suis narcissique, mais pas suffisamment tout de même pour m'intéresser à moi de façon à vous dire ce que je suis. Je me souviens, je l'ai raconté d'ailleurs dans un vieux livre, que je termine comme ça d'ailleurs, autant que je m'en souvienne, qui était « Biologie et structure ». Hein, j'étais dans un dîner chez des amis, et il y avait un type, un très haut fonctionnaire, sortant de Polytechnique forcément d'ailleurs, qui au début de la soirée s'est intéressé à moi. Hein, on a discuté, et puis Puis à partir d'un certain moment, il m'a dit « Ah, j'avais compris, vous êtes empirio-criticiste. » Je ne savais pas ce que c'était qu'être empirio-criticiste. Mais à partir de ce moment-là, il ne m'a plus du tout adressé la parole. Il m'avait classé, il ne pouvait plus rien apprendre de moi puisque j'étais empirio-criticiste. Alors, les étiquettes, les définitions d'un individu, je pense que c'est vouloir vraiment limiter cet individu à quelques mots, à une étiquette. Et c'est pas possible. N'importe quel individu, vous descendez partant dans la rue, n'importe quel pipe que vous rencontrez, vous, il est indéfinissable.
Guy Bedos, Denis Bourgeois des éditions Grasset, Claude Cuvier, physicien, Alain Finkielkraut, philosophe, Pierre Arditi, comédien, Claude Grenier, enseignant, Jean-Pierre Muillard, psychiatre, François Nocher, comédien, Michel Ragon, écrivain. Texte lu par Pierre Arditi, avec des extraits du film d'Alain René, Mon oncle d'Amérique.
Il y a de cela 50 ans déjà.
J'aurais vécu une vie où je me suis fait toujours plaisir. Et j'ai essayé d'aller toujours jusqu'à la limite de la rupture avec le groupe social auquel j'appartenais. Et au dernier moment, ben, comme je sentais que j'étais tout seul et qu'ils sont plus nombreux, et que ils m'auraient pas épargné si je leur ai fait un peu de mal. Alors, je changeais, je tâchais de trouver le moyen de. Et depuis 1958, j'ai trouvé le moyen d'avoir mon instrument de travail à moi.
Ça ne vous dérange pas d'avoir des ennemis ?
Non. Oh, puis finalement, ce qu'il faut, c'est vivre plus longtemps qu'eux. De mesure qu'on vieillit, les ennemis disparaissent progressivement. Donc, on en a moins. Et comme on est plus habile, on s'en recrée moins.
Réalisation Thierry Ponce. Prise de son Jean-Claude Aimé et Daniel Renard. Mixage Pierre Mine et Jean-Michel Coqui. Coordination Françoise Raymond.